VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour Sciences et Santé avec Camille Gros-Didier. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. La Cour constitutionnelle du Burundi a validé ce mardi la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat présidentiel. Cette candidature, objet de controverse, est la cause de remous qui secoue le pays. Félix Yepassi-Zembrou.
Le renouvellement, une seule et dernière fois, de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans n'est pas contraire à la constitution du Burundi, dit l'arrêt signé par 6 juges sur 7. Le vice-président de la Cour a, lui, refusé de signer et fuit le pays, dénonçant des pressions sur la Cour pour qu'elle valide la candidature. Pierre Nkurunziza a déjà été élu 2 fois, en 2005, après les accords d'Arusha par le Parlement, et en 2010, au suffrage universel direct. Le 25 avril dernier, son parti, le CNDD-FDD, l'a désigné candidat à la présidentielle du 26 juin. Cette désignation a déclenché une série de manifestations d'opposants à un troisième mandat qu'il juge inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient mis fin à la guerre civile de 1993 à 2006. Par ailleurs, le gouvernement burundais s'est dit prêt aujourd'hui à libérer les manifestants arrêtés et rouvrir les radios fermées depuis le début de la contestation. Les émeutes ont forcé au moins 24 000 Burundais à fuir vers le Rwanda voisin.
Le ministre malien de la Réconciliation nationale a affirmé à Alger que la transgression du cessez-le-feu dans son pays ne devrait pas avoir d'influence sur la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les rebelles du Nord, prévu le 15 mai. On fait le point avec Idriss Fall.
La transgression du cessez-le-feu et les violences à Menaka et Léré ne devraient pas influer sur le processus de paix, a déclaré Ould Sidi Mohamed Zahabi en visite à Alger. Selon lui, la solution définitive à cette situation consistant en l'accord de paix et de réconciliation nationale dont la signature est programmée pour le 15 mai prochain à Bamako. La rébellion avait donné son accord pour paraffer le document, mais a estimé avoir été attaquée à Menaka le 27 avril par les Gacha, une milice proche de Bamako. Depuis, les affrontements meurtriers ont eu lieu à Léré. 2 membres de la garde nationale ont été abattus à Gundam et aujourd'hui, les rebelles de la CMA ont attaqué la ville de Ténénkou dans la région de Mopti. La mission de l'ONU au Mali exhorte tous les protagonistes à cesser les hostilités et à évacuer les positions nouvellement occupées.
République centrafricaine, le chef de 8 groupes armés centrafricains s'engage à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats. Dans un accord signé en marge du forum de Bangui, ils promettent aussi de mettre fin au recrutement d'enfants. D'après l'AFP, plusieurs factions de l'ex-rébellion Séléka et les milices anti-Balaka figurent parmi les signataires. Côte d'Ivoire, l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 démarra en juillet. C'est ce qu'annonce la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, citée par l'AFP. Les dernières victimes souhaitant être indemnisées sont donc appelées à venir se faire recenser du 11 mai au 11 juin. République démocratique du Congo, le militant congolais Fred Boma du mouvement citoyen Lutte pour le changement a été transféré aujourd'hui à la prison centrale de Kinshasa. Il n'a pas été inculpé, a déclaré à l'AFP maître Sylvain Loumou, son avocat. Il a été transféré sans avoir pu parler à un magistrat, il n'a pas été auditionné au parquet, il ne sait pas de quoi il est inculpé ni quelle va être la suite de ce dossier, a précisé à l'AFP une source diplomatique. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, s'est rendu en Somalie. C'est une visite historique, car aucun chef de la diplomatie américaine n'avait jamais visité ce pays. Monsieur Kerry a rencontré à Mogadiscio le président Hassan Cheikh Mohamud et a plaidé pour le bon déroulement des législatives en 2016. Bagassi Koura.
John Kerry a été accueilli peu avant midi par le président Hassan Cheikh Mohamud, le premier ministre et d'autres responsables somaliens. C'est là que John Kerry est resté cantonné pour des raisons de sécurité. En plus du président, le secrétaire d'État s'est entretenu avec des responsables somaliens régionaux. Selon la porte-parole du département d'État, Mary Harf, John Kerry devait discuter des questions de coopération sécuritaire et des efforts de stabilisation du pays à l'approche des élections de 2016. La capitale somalienne est devenue beaucoup plus paisible ces dernières années, mais le gouvernement est régulièrement en proie à des attaques suicides du groupe Al-Shabaab. À l'aéroport, Kerry a exprimé l'espoir que la Somalie fera des progrès, souhaitant, je cite, « La prochaine fois que je viens ici, nous devons être en mesure de marcher au centre-ville ». Fin de citation. Hier, à Nairobi, au Kenya, Kerry a promis 45 millions de dollars supplémentaires au HCR pour prendre en charge les réfugiés somaliens.
Tragédie en mer Méditerranée, près de 40 migrants se sont noyés dimanche, rapporte l'ONG Save the Children. Leur canot pneumatique se serait dégonflé ou aurait explosé alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes de l'Italie. On compte désormais plus de 1750 migrants morts en Méditerranée cette année.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de dimanche sur un centre de conférence près de Dallas, au Texas, où se tenait un concours de caricature du prophète Mahomet. Lionel Gaïma.
Le groupe extrémiste a fait l'annonce mardi sur la station de radio en disant, je cite, « Deux soldats du califat ont mené l'attaque de dimanche dans la ville de Garland ». La police a identifié les assaillants comme étant Elton Simpson et Nadir Soufi. Les deux ont ouvert le feu sur le centre de conférence, blessant un garde de sécurité avant d'être abattu par des policiers. Les documents judiciaires montrent que Simpson était sous surveillance depuis 2006 et accusé en 2010 d'avoir menti à des agents du FBI à propos de sa volonté de rejoindre le djihad en Somalie. Lundi, des agents du FBI et de la police ont fouillé le domicile de deux hommes en Phoenix, dans l'Arizona. L'association Initiative américaine de défense de la liberté a parrainé l'événement, offrant un prix de 10 000 $ pour le vainqueur. En janvier dernier, deux hommes armés ont attaqué à Paris le magazine satirique français Charlie Hebdo, qui a présenté plusieurs caricatures du prophète Mahomet. L'attaque avait fait 12 morts dans la rédaction.
L'Union européenne se dit confiante en la capacité de la Grèce et de ses créanciers à maintenir le pays solvable dans la zone euro. Athènes a accéléré ses efforts diplomatiques en vue de prévenir une cessation de paiement. Les institutions internationales de financement exigent des réformes économiques et des mesures budgétaires avant de verser au gouvernement grec la dernière tranche de 7,7 milliards de dollars de son plan de sauvetage économique. Le président français François Hollande a rappelé aujourd'hui en Arabie Saoudite, l'un des pays au monde où les exécutions capitales sont en forte augmentation, que son pays militait pour l'abolition de la peine de mort. L'Arabie Saoudite, rappelle l'AFP, est régulièrement critiquée par des organisations de défense des droits de l'homme pour les exécutions de condamnés à mort qui sont généralement décapités. Le nombre de ces exécutions est en forte augmentation. Il y en a eu 78 depuis le 1er janvier. Un nouveau chef d'état-major général pour les forces armées américaines. Le président Barack Obama a annoncé ce mardi la nomination du commandant des marines, le général Joseph Dunford, pour succéder au général Martin Dempsey. Devenu officier des marines en 1977, Dunford serait le deuxième commandant de ce corps d'armée à occuper ce poste. Le premier était le général Peter Pace, de 2005 à 2007. Les livraisons d'aide continuent au Népal, où certaines zones sont encore difficiles d'accès, plus d'une semaine après le violent séisme qui a secoué le pays. Le gouvernement a déclaré un total de plus de 7 500 morts et environ 14 500 blessés, soulignant que le bilan sera probablement beaucoup plus élevé quand les zones reculées seront accessibles. Les Nations Unies ont de leur côté côté fait état de 8 millions de sinistrés, soit plus d'un quart de la population du Népal. Lundi, l'UNICEF a annoncé l'arrivée de 40 tonnes d'aide pour prévenir toute maladie due à l'eau non potable. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guerriec et je laisse la place à Camille Grosdidier dans Carrefour Sciences et Santé.
Soyez au cœur.